témoin devient plus difficile. Ça facilite d'une certaine façon le désintéressement et l'objectivité par rapport aux travaux de Botul. C'est un peu comme les livres, il est toujours préférable de ne pas les lire pour en parler. Botul, c'est un petit peu comme ça. Il y a un avantage presque de nature évolutionniste à pouvoir parler d'une théorie avec laquelle on n'avait pas eu de contact pendant très longtemps.
Moi, je voudrais qu'on évoque un peu les mœurs de Botul, parce que dans la biographie que vous publiez, on apprend quand même que fin 1936, début 1937, Botul, pendant quelques mois, exerce le métier de chauffeur de taxi. On en a déjà parlé. Il était chauffeur de taxi déjà en Argentine, c'est bien ça.
C'est vrai.
Donc ça revient dans sa biographie.
C'est vrai.
Et en dispensant des leçons de philosophie à ses clients pendant ses courses, on en a évoqué. Et il est accusé de détournement de mineurs sur la personne d'Héloïse Poisson, 18 ans, qu'il avait chargé à Neuilly-sur-Seine et déchargé devant la cour Désir, rue de Rennes. Voilà. Voilà. Alors ça, je voudrais bien qu'on évoque un petit peu ça, parce qu'on a beau, voilà, il y a quand même quelque chose d'un peu gênant là, dans sa biographie. Enfin, elle avait 18 ans, mais à l'époque...
Oui, oui. Le cours Désir était le cours qui était fréquenté par la jeune Simone de Beauvoir. D'ailleurs, c'est un cours qui n'existe plus, à ma connaissance, situé du côté de Saint-Germain-des-Prés. Donc ça, c'est avéré, c'est historique, il n'y a aucun problème. Effectivement, Botul a connu ce que... Il faut bien le dire, on peut le dire ici entre nous, beaucoup de professeurs de philosophie ont connu dans leur classe de terminale, c'est-à-dire la tentation, voire le passage à l'acte de la chaire lycéenne.
Eh bien, c'est le démon de midi de Nietzsche.
C'est le démon de midi de Nietzsche, c'est-à-dire l'adulte supposé savoir qui fascine la jeune élève, n'est-ce pas ? Alors, bon, il s'est passé un certain nombre de choses entre Botul et cette jeune Héloïse, qui rappelle effectivement quelque chose d'Abélard et d'Héloïse. C'est assez fascinant. Abélard, le philosophe confirmé, qui séduit sa jeune élève Héloïse et à qui il arrive ensuite des tas de malheurs. Et c'était une sale affaire, il faut bien le dire, vous avez parlé de mœurs. Botul est accusé de détournement de mineurs, à l'époque c'était vraiment très très grave. Il doit se défendre. Il est convoqué, effectivement, d'abord par l'ordre professionnel des taxis, devant une commission qui existe toujours, d'ailleurs. Et donc, il prononce...
Il faut rappeler comment commence l'affaire. Jean-Baptiste Botul est donc chauffeur de taxi, et à l'arrière se pose une jeune fille qui lui dit « Cours, désir ». Donc, avec tout ce que ça pouvait suggérer. Et donc, voilà, je t'en prie, Frédéric.
Oui, voilà, il fallait rappeler
sans
ça.
Sans compter le côté lacanien... Elle monte à l'arrière, alors que lui est né à l'arrière. Enfin, c'est très lourd pour lui.
Le signifiant est chargé, comme on dit chez les taxis, parfois. Voilà. Et ensuite, alors il veut montrer que le démon de midi, pour reprendre cette expression proverbiale, qui agiterait le quadragénaire, le quinquagénaire, je ne sais pas, avide de chair féminine fraîche, est en fait une sorte de tradition féminine, et que lui s'en est prémuni depuis longtemps en méditant sur Nietzsche, qui a vécu quelque chose de semblable avec la jeune Louis-Andréa Salomé. Vous voyez que les références sont multiples. Bon, on connaît tous les amours de ratés, il faut bien le dire, entre Nietzsche et cette jeune russe allemande, Louis-Andréa Salomé, dont il était amoureux et qui l'a foudroyé. Botul sait qu'un amour de jeunesse avec une jeunesse peut gâcher son œuvre philosophique, je résume à grands traits, et surtout pas quand on est philosophe, s'engager dans cette voie, car c'est la mort du concept. Oui. Donc il explique tout ça, il reprend ce que c'est que le démon de midi pour un philosophe. C'est une très vieille histoire. Le démon de midi est créé par les pères de l'Église quelques siècles, deux, troisième siècle après Jésus-Christ.
Et l'engagement politique de Botul dans tout ça, il a eu des relations avec Sartre, qui était un philosophe engagé. Est-ce qu'on peut dire que Botul était engagé lui aussi, ou quelqu'un a des choses à dire là-dessus parmi les botuliens qui nous entourent?
Moi, j'exprime un courant dégagé, si vous voulez, au sein du mouvement botulien, mais bon, ça se discute. Moi, je pense que Botul était rétif à toute idée d'engagement, d'un bord ou de l'autre. C'était un philosophe dégagé, oui. Donc, c'était ce qui marquait son anti-sartrisme, en fait. C'est ça. Donc, il meurt en 47, alors que triomphe en France et dans le monde aussi l'idée, grâce à Jean-Paul Sartre, ou à cause de Jean-Paul Sartre, qu'un vrai philosophe digne de ce nom doit s'engager. Donc, c'est son côté peut-être anti-moderne. Voilà.
Du reste à la question sur la mort de Jean-Baptiste Botul, on ne sait pas si c'est un suicide ou une mort naturelle. Donc effectivement, ça pourrait être un suicide face justement à cet engagement ou à cette montée de l'engagement.
Enfin, avant de mourir quand même, en 1944, il participe à la libération de l'Alsace avec André Malraux. Alors Botul est aide-de-camp, mais enfin c'est quand même prestigieux. Là, c'est pas celui qui en 1914 a fui la France pour aller en Argentine. Là, il est sur la photo, il est dans l'histoire.
C'est vrai.
C'est intéressant parce que c'est un petit peu ajouter l'inexistence au mythe, si vous voulez. Et donc, la coordination des deux idées fait quelque chose d'assez détonnant. Et moi, je trouve ça très beau. Sur l'engagement, je crois qu'on l'a